Vers quoi vous tournez-vous pour trouver votre bonheur? Quand des sentiments d'insatisfaction vous saisissent, où allez-vous? Quand la tristesse remplit votre cœur, dans vos combats, vos échecs, vos épreuves, où allez-vous pour trouver du réconfort? Malheureusement, tellement de croyants et de non-croyants vont dans de mauvaises directions. Moi le premier, il m'est arrivé à plusieurs reprises d'aller dans de mauvaises directions. Et quand nous allons dans de mauvaises directions, nous ne remplissons pas nos besoins profonds. Bonheur et consolation ne se trouvent pas en dehors de Dieu. C'est important de comprendre cela ce matin. Bonheur et consolation ne se trouvent pas en dehors de Dieu. Même si des milliers de choses sur cette terre peuvent nous procurer du bonheur et de la consolation, cela sera insuffisant. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de la source du bonheur et de la consolation, Dieu lui-même. Donc, donner toute notre attention à une chose ou à quelqu'un pour notre bonheur, notre sécurité, notre consolation, c'est prendre une mauvaise direction. Car si cette chose ou cette personne nous quitte, c'est le désespoir total pour nous. Et la Bible nous rappelle que toute notre attention doit être sur Dieu pour notre bonheur, notre sécurité, notre consolation. Bon, je sais, dire cela peut être très rapide. Mais vous allez comprendre ce que je suis en train de dire au travers de la Bible, la parole de Dieu. Je rappelle que nous continuons notre série de messages sur la lettre de Paul aux Romains. Si vous ne l'avez pas suivi, ou si vous avez raté un dimanche, sachez que nous mettons les messages sur Internet, vous pouvez les écouter et, ou les lire. Donc cette lettre donc de Paul, dont je parle, celle aux Romains, est une lettre d'une grande richesse. Je rappelle que Paul, l'auteur de cette lettre, est un apôtre. C'est un homme que Dieu a choisi pour annoncer le message le plus extraordinaire au monde, l'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle de Dieu qui est venu sur terre par Jésus-Christ. Il a donné sa vie pour que le monde soit libéré du mal, du péché et des œuvres de Satan. Par le sacrifice de Jésus-Christ, Dieu nous pardonne nos péchés, nous réconcilie avec lui et nous donne la vie éternelle. Paul annonce ce message, il fonde de nouvelles églises et il enseigne pour que les croyants soient solides dans la foi. C'est ce qu'il fait ici dans cette lettre. Enseigner pour que la foi des croyants à Rome, de Rome, soit solide et affermie. Donc maintenant nous sommes dans le chapitre 8, dans la deuxième partie du chapitre 8. Et si nous lisons cette partie, nous pouvons comprendre tout de suite que je ne pourrais pas donner tous les détails de ce texte tellement il est riche. Mais j'aimerais simplement faire ceci. Vous montrer quatre vérités indispensables que Paul nous donne pour faire face à la souffrance. La première vérité est étonnante. Premièrement, l'espérance d'un avenir glorieux. Alors que notre tendance est de penser à aujourd'hui, maintenant, de nous soucier du lendemain et de vivre juste pour notre vie sur terre, Dieu nous invite à regarder le paradis. Un exercice pas facile, mais qui est source de bonheur et de consolation. Alors je cite maintenant Romains 8, juste le verset 18. Comparons les souffrances d'aujourd'hui avec la gloire que Dieu nous montrera clairement plus tard. À mon avis, elles sont peu de choses. Waouh ! Paul dit ici que les souffrances sur terre ne sont rien comparées à la gloire que Dieu nous montrera plus tard. Ça, c'est fort. Alors, regardez cette balance. Les souffrances du temps présent sont comme une plume que vous mettez d'un côté. Et la gloire du paradis est comme ce plomb, boum, que vous mettez de l'autre côté. L'image ici est frappante, n'est-ce pas? Le poids d'une plume ne peut être comparé au poids du plomb. L'un est tellement léger et l'autre est tellement lourd. Alors regardez cette autre image. cette corde. Là, ici, c'est clair. Elle est super longue, cette corde. Le tout petit bout que vous voyez ici, avec le, on pourrait dire, on a l'impression que c'est du scotch, une sorte de ruban rouge. Donc cette petite partie, on pourrait dire que c'est notre vie ici-bas, et tout le reste de cette corde, c'est l'éternité. On a tendance à mettre tout notre accent sur ce petit bout, alors que l'éternité, c'est beaucoup plus énorme que cela. Paul fait ce calcul. Notre temps sur terre ne pourrait être comparé à notre temps dans l'éternité. Nous mettons ici le fini à côté de l'infini. Qu'est-ce que la plus longue vie sur terre au regard de l'éternité? Alors, quand nous avons vu, ou plutôt quand nous avons trop nos yeux sur terre, la souffrance peut sembler énorme et immense, n'est-ce pas? Mais quand nous regardons notre espérance, le paradis, et arrivons à avoir une perspective d'éternité, nous pouvons dire avec l'apôtre Paul, en comparaison de l'avenir magnifique que Dieu nous a préparé, les contrariétés, les souffrances de cette vie présente sont rien. Bon, on pourrait dire que Paul va un peu trop fort quand on voit les souffrances terribles dans ce monde. Mais en fait, il est vraiment bien placé pour faire la leçon. Regardez rapidement ce qu'il a vécu. Je cite juste 2 Corinthiens chapitre 11, les versets 24 à 28. Voici ce que Paul a vécu. 5 fois, les Juifs m'ont donné les 39 coups de fouet. 3 fois, les Romains m'ont frappé durement. 1 fois, on m'a jeté des pierres pour me tuer. 3 fois, j'ai été sur un bateau qui a coulé. Et 1 fois, j'ai passé un jour et une nuit dans l'eau. On a envie de dire à Paul, stop ! Attendez, j'ai fait beaucoup de voyages et j'ai connu beaucoup de dangers. Dangers à cause des rivières, des bandits, de mes frères juifs et des non-juifs. Dangers dans les villes, dangers dans le désert, dangers sur la mer, dangers des faux frères. J'ai fait des travaux très fatigants et j'ai souvent manqué de sommeil. J'ai eu faim et soif et j'ai souvent manqué de nourriture. J'ai eu froid et j'ai manqué de vêtements. Et je n'ai pas parlé de la chose la plus importante. Ça, c'est impressionnant. Paul, écoutez, c'est quoi la chose la plus importante pour Paul? Sa souffrance. Mon souci de toutes les églises. J'y pense tous les jours. C'est ce qui battait dans le cœur de Paul. Son souci pour les églises. Paul a beaucoup souffert. Il est donc bien placé pour nous dire que les souffrances actuelles ne sont rien face à l'avenir glorieux que Dieu en réserve pour nous. Ensuite, Paul parle de 3 soupirs dans l'attente de l'éternité glorieux que Dieu prépare. Il y a le soupir de la création, le soupir du chrétien et le soupir de l'Esprit Saint. Je lis Romains 8, 19 à 22. Oui, le monde créé par Dieu attend avec impatience le moment où Dieu montrera la gloire de ses enfants. Ce monde est tombé sous le pouvoir de forces qui n'ont aucune valeur. Ce n'est pas lui qui a voulu cela, mais c'est Dieu qui l'a mis sous ce pouvoir. Pourtant, il y a encore de l'espoir pour ce monde. Lui aussi, il sera libéré des forces qui le détruisent et qui le rendent esclave. Alors, il participera à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons, tout le monde crée, gémit et souffre encore maintenant, comme une femme qui accouche. Quelle souffrance! N'est-ce pas surprenant ce que Paul dit ici? Il dit que la création souffre. Elle aussi a été touchée par le péché de l'humanité. Elle n'a pas échappé à la malédiction. Cette déclaration de Paul peut prendre un fort relief quand on évoque la stérilité de certains sols, les maladies des plantes, les cataclysmes naturels, la cruauté dans le monde des animaux, etc. Et l'autre chose qui est surprenante, c'est que la terre attend elle aussi sa délivrance. Ça ne vous surprend pas dans le texte? Elle attend elle aussi sa délivrance. Tout comme les croyants. Dieu, un jour, va purifier cette terre, la rendre libre. Ce sera un jour une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Je lis la suite. Romains chapitre 8, verset donc 23. Mais il, le monde, n'est pas le seul donc, à gémir. Nous aussi, nous gémissons dans notre cœur en attendant d'être vraiment enfants de Dieu et de devenir complètement libres. Pourtant, nous avons déjà reçu l'Esprit Saint comme première part des dons que Dieu a promis. En effet, nous sommes sauvés, mais en espérant seulement. Quand on voit ce qu'on espère, on n'appelle plus cela espérer. Les choses qu'on voit, est-ce qu'on peut encore les espérer ? Espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec beaucoup de patience. Ici, les croyants ont reçu l'Esprit de Dieu. Ils souffrent. La souffrance dont parle Paul, ce ne sont pas nos petits bobos, nos petits problèmes quotidiens. Ça fait partie, mais ce n'est pas que ça. La souffrance qui touche les croyants, c'est premièrement leur combat contre le péché et pour la sainteté. Le croyant souffre d'une certaine manière parce qu'il voit le monde souffrir aussi. Les nouvelles actuelles nous montrent tellement de souffrances en France et aussi dans le monde. Le croyant est aussi touché par la souffrance quand il vit ou voit la persécution visible dans plusieurs pays du monde. Plein de chrétiens aujourd'hui sont violés, tués, arrêtés injustement, des églises brûlées, juste à cause d'une chose, leur foi en Jésus-Christ. Le croyant est aussi touché, enfin je l'espère, par la souffrance due à la persécution non visible de l'ennemi. La persécution en France et dans d'autres pays du monde n'est pas du tout violente. Mais cette persécution subtile et cachée est bien présente. Cette persécution n'est rien d'autre que Satan qui endort l'Église et fait de nous des chrétiens faibles à cause du confort. Le confort a pris le pas sur le ministère de l'Église. Il nous pousse à être juste bien entre nous. On est trop bien, c'est génial, on vit de bons cultes, etc. Et à oublier de vraiment être dans le combat, c'est-à-dire partager l'amour de Dieu autour de nous, pleurer sur le péché de ce monde, que nous voyons dans ce monde, et continuer à combattre dans la prière pour voir Dieu agir puissamment dans ce monde qui a tant besoin de lui. Le véritable croyant, rempli du Saint-Esprit, souffre. Mais il y a un mais. Il attend et espère avec patience la délivrance que Dieu va accorder. Jésus-Christ revient bientôt. Bientôt nous vivrons sur la nouvelle terre où la justice habitera. Il n'y aura plus le mal, plus le péché, plus la souffrance. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous vivrons pleinement cette réalité au retour de Jésus-Christ. Quel bonheur et quelle consolation immense de savoir qu'un avenir glorieux nous attend. N'oublions jamais cette première vérité. Premièrement, nous avons vu que cette vérité indispensable pour faire face à la souffrance, c'est l'espérance d'un avenir glorieux. Deuxièmement, l'aide du Saint-Esprit dans nos prières. Yeah! Paul dit ceci dans Romains, donc toujours chapitre 8, donc verset 26 à 27. De plus, l'Esprit Saint aussi vient nous aider. Nous qui sommes faibles, nous ne savons pas prier comme il faut. Alors l'Esprit Saint lui-même prie pour nous avec des gémissements que la bouche ne peut pas redire. Mais Dieu voit le fond des cœurs. Il sait ce que l'Esprit veut demander. Oui, l'Esprit Saint prie comme Dieu le veut, pour ceux qui lui appartiennent. Ces versets sont extraordinaires. Nous recevons l'aide du Saint-Esprit dans nos souffrances. J'ai entendu un petit amen. Je vois que vous êtes peu à suivre. Non. Il est l'aide dont nous avons besoin. Il est là dans nos souffrances, le Saint-Esprit. Il est là tout le temps, mais dans nos souffrances, il y a sa présence qui est particulière ici et qui nous aide. Nous le savons tous, il y a des épreuves que nous traversons qui peuvent être tellement difficiles que nous ne savons plus comment prier. Il y a des personnes que j'ai rencontrées, ils me disaient « je n'arrive plus à prier ». Et c'est dans ces moments-là que nous devons leur dire l'Esprit de Dieu prie pour toi. Nous sommes si faibles dans ces moments-là, dans les moments en tout cas de grosses difficultés, que peut-être nos prières sont très difficiles, où on ne sait pas comment, quoi dire à Dieu. Et c'est là que le Saint-Esprit prend le relais. Il prie pour nous. Mais je pense à une chose, au-delà de la souffrance, nous sommes tous faibles, pas juste quand on souffre. Quand nous souffrons, nous sommes tout le temps faibles. Et nous avons tout le temps besoin de l'action du Saint-Esprit. Je pense aussi qu'on pourrait voir aussi beaucoup plus loin ce texte, que l'Esprit-Saint est là aussi pour nous aider dans la prière tout le temps, parce que nous avons besoin de son secours. Non seulement le Saint-Esprit prie pour nous, mais il nous donne aussi les pensées de Dieu. Pour bénéficier des pensées de Dieu, nous devons être remplis de la parole de Dieu, la Bible. C'est elle qui nous enseigne comment prier. Et elle nous aide à voir comment nous devons prier dans nos faiblesses. L'autre chose, nous devons apprendre aussi à faire silence et à écouter l'Esprit de Dieu nous parler, nous conduire pour pouvoir prier selon la volonté de Dieu. Quel bonheur et quelle consolation immense de savoir que le Saint-Esprit est avec nous. Il prie pour nous et aussi il veut nous conduire dans la prière, dans nos temps de faiblesse. N'oublions jamais cette deuxième vérité. Nous avons vu ici deux vérités indispensables pour faire face à la souffrance. L'espérance d'un avenir glorieux, l'aide du Saint-Esprit dans nos prières. Et troisièmement, la ressemblance à Jésus-Christ au travers des circonstances. Voilà. Écoutez ce que Paul dit, verset 28. Nous savons encore une chose. Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Cela, il les a appelés selon son projet. En effet, ce que Dieu a choisi d'avance, il a aussi décidé d'avance de les faire ressembler à son Fils. Ainsi, son Fils sera l'aîné d'une grande famille. Ce que Dieu a choisi d'avance, il les a aussi appelés. Ce qu'il a appelé, il les a aussi rendus justes. Et ce qu'il a rendu juste, il leur a aussi donné sa gloire. C'est l'un des textes les plus bizarres de toute la Bible. Et en même temps, l'un des textes les plus encourageants de toute la Bible. Ce qui est bizarre, c'est que Dieu puisse... Bon, ça, c'est pas bizarre. Que Dieu puisse utiliser les bonnes choses de la vie pour notre bien. Bon, ok. Mais le texte dit tout. Donc, ça veut dire que Dieu peut utiliser les choses, les mauvaises choses, les mauvaises circonstances, nos épreuves, pour notre bien. Toutes choses concourent au bien de ceux qui ont de l'amour pour Dieu. Tout peut vouloir dire échec et succès, faillite et réussite, épreuve et joie, catastrophe de tout genre. Toute chose, tout travail de concert dans la providence de Dieu qui gouverne l'univers pour notre meilleur bien, notre entrée en possession de notre héritage de gloire. Mes amis, le mal, la souffrance font partie de ce monde. Le chrétien n'en sera pas épargné. Et je pense que Paul, quand il commençait cette première partie en parlant du Saint-Esprit, dans cette première partie du chapitre 8, il s'est dit, bon, maintenant, il faut que je parle de la souffrance, parce que l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant, ce n'est pas juste délivrance du péché, c'est faire mourir les actions du corps, mais c'est aussi passer par la souffrance. Et là, ça peut casser plusieurs personnes qui, j'ai entendu, prêchent. Il est arrivé aussi que des pasteurs prêchent ainsi. Il est arrivé que des enseignants disent cela, ou des sites internet le disent fortement. La vie chrétienne, succès à tout prix. Vous allez la voir avec Dieu. C'est comme un enfant qui tout simplement se laisse glisser sur un toboggan. Ça va aller cool. Pas de problème. Plus de problème. Mais ça, c'est très grave. L'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant, c'est aussi un moment où on passe, des moments où on passe par la souffrance. Le chrétien n'en sera pas épargné. Mais un jour, la souffrance finira. Pour l'instant, nous devons vivre avec. Mais écoutez la bonne nouvelle. Dieu se sert de toutes les circonstances pour notre bien. Tu n'as pas compris. Dieu se sert de toutes les circonstances de ta vie pour ton bien. Quel est ce bien? Verset 29. Il a aussi décidé d'avance de les faire ressembler à qui?
À son fils.
Dieu n'est pas responsable du mal, ni de la souffrance qui nous arrive. Le mal et la souffrance sont dans le monde. En premier lieu, à cause de nos premiers parents, Adam et Ève, mais aussi à cause du rejet de Dieu, de nos péchés, de nos mauvaises décisions. Mais quand nous appartenons à Dieu et vivons une relation d'amour avec lui, il se sert de toutes nos circonstances, bonnes, mauvaises, pour nous rendre semblables à Jésus-Christ. Ressembler à Jésus-Christ, c'est être rempli du Saint-Esprit. Et le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie ensemble,
la paix,
la patience, l'amabilité, la bonté, la douceur. J'en ai pris un comme ça, j'en ai sauvé un, c'est ça? C'était pour voir si vous suivez ça. Si tu appartiens à Dieu et vis une relation d'amour avec lui, Dieu va se servir de toutes les circonstances de ta vie pour que l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi grandissent. C'est un beau projet que Dieu a pour nous. L'amour pour Dieu et pour les autres ne cessera de grandir et de se manifester parce que Dieu se sert des circonstances pour ça, pour te faire grandir. Pour vivre cette transformation dans nos circonstances, le texte parlait de l'appel de Dieu. Ils nous font répondre à cet appel, dire oui à cet appel, lui demander pardon et placer notre foi en Jésus-Christ. Et il nous rendra juste devant lui, comme si nous n'avions jamais péché. Et il nous glorifiera. Et cela veut dire, en fait, nous rendre semblables à Jésus-Christ. Quel bonheur et quelle consolation immense de savoir que Dieu se sert de toutes les circonstances, même nos souffrances, pour nous rendre semblables à Jésus-Christ. Dieu nous a fait, plutôt Dieu nous fait ici, grandir en amour pour lui et pour les autres. N'oublions jamais cette troisième vérité. Nous avons vu trois vérités indispensables pour faire face à la souffrance. L'espérance d'un avenir glorieux, l'aide du Saint-Esprit dans nos prières, la ressemblance à Jésus-Christ au travers des circonstances. Quatrièmement, et celle-ci est la plus touchante, l'assurance de l'amour éternel de Dieu. Je vais lire la suite, versets 31 à 39, donc la fin du chapitre 8. Que dire de plus ? Paul, il est marrant. Que dire de plus ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Personne. Même à son fils, Dieu n'a pas évité la souffrance, mais il l'a livré pour nous tous. Alors, avec son fils, il va tout nous donner gratuitement. Qui peut accuser ce que Dieu a choisi ? Personne. En effet, Dieu les rend justes. Qui peut les condamner ? Personne. En effet, le Christ, Jésus, est mort. De plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il prie pour nous. Qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Est-ce que c'est le malheur ou l'inquiétude, la souffrance venant des autres, ou bien la faim, la pauvreté, les dangers ou la mort? Les livres saints disent, à cause de toi, nous risquons sans arrêt la mort. On nous traite comme des moutons de boucherie. Mais, dans tout ce qui nous arrive, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en suis sûr, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu que Dieu nous a montré dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, ni le présent, ni l'avenir, ni tous ceux qui ont un pouvoir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni toutes les choses créées, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Bon, qu'est-ce qu'on peut ajouter après ce texte? On devrait juste être dans l'adoration, la louange et dans la prière, n'est-ce pas? Avons-nous cette assurance, les amis? Rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu, l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien.
Même pas nous.
C'est là notre plus grand combat, en fait, en tant que croyants. Quand la souffrance nous touche, notre foi dans l'amour de Dieu peut être ébranlée. Pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi s'il m'arrive telle tuile qui me tombe sur la tête, pourquoi Dieu a permis cela? Et très vite, très souvent, c'est là que nous sommes ébranlés, dans notre foi, dans l'amour de Dieu. C'est certainement pour cela que Paul veut souligner ce point, mais pour bien d'autres choses aussi. Mais je pense aussi pour cela. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Personne. Qui peut accuser ceux que Dieu a choisi? Personne. Qui peut nous condamner? Personne. Qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Personne. Paul en a l'impression qu'il est en train de chercher, puis il dit, bah non, en fait, personne. Personne. Pourquoi? Parce que pour nous, Dieu n'a pas épargné Jésus-Christ. Il a souffert pour nous, il est mort pour nous, il nous rend juste, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous, son amour pour nous est éternel. J'aime ce que le pasteur John Piper dit sur ce texte, je cite, « Si Dieu a accompli le plus dur, c'est-à-dire livrer son Fils, Jésus-Christ, à la souffrance et à la mort, il fera certainement ce qui est relativement plus facile, à savoir nous donner toutes choses avec lui. L'engagement de Dieu à nous combler de toutes choses est plus certain que le sacrifice de son Fils. Il n'a point épargné son Fils, dit le texte. Ceci étant accompli, pouvait-il cesser de nous être favorable? C'est impensable. Yes. Mes amis, le mal peut nous atteindre. Satan peut nous accuser. Toutes les choses ou les êtres du monde céleste et du monde terrestre peuvent nous atteindre. Mais rien de tout cela ne pourra jamais briser notre relation avec Dieu. Rien de tout cela ne pourra briser l'immense amour que Dieu a pour nous. Rien de tout cela ne pourra enlever l'action de Dieu dans notre vie. Dieu ne cessera de pourvoir à nos besoins pour supporter la souffrance. Et pour continuer à vivre pour Dieu et à faire sa volonté. Cette conviction doit nous habiter tous les jours. Quel bonheur et quelle consolation immense de savoir que rien ne peut nous séparer de l'amour manifesté, de Dieu manifesté en Jésus-Christ. N'oublions jamais cette quatrième vérité. Je vais conclure. Nous avons vu ensemble quatre vérités indispensables pour faire face à la souffrance. L'espérance d'un avenir glorieux, l'aide du Saint-Esprit dans nos prières, la ressemblance à Jésus-Christ au travers des circonstances et l'assurance de l'amour éternel de Dieu. Alors, qu'allons-nous faire maintenant? Voici ce que je vous invite à faire ensemble. Faisons tout notre possible pour que notre bonheur et notre consolation viennent toujours de Dieu. Pour cela, fixons nos regards sur l'avenir glorieux qui nous attend. Prions sans cesse, sans nous décourager, avec l'aide du Saint-Esprit. Rappelons-nous que le Saint-Esprit est avec nous dans nos faiblesses. Croyons que Dieu se sert de toutes les circonstances pour ressembler à Jésus-Christ. Et enfin, soyons certains que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. C'est ainsi que nous serons toujours encouragés dans notre vie quotidienne et en particulier dans nos souffrances. Je vous invite à prier. Dieu notre Père, pardon pour toutes les fois où nous avons recherché notre bonheur et notre consolation ailleurs qu'en toi. Nous te demandons ton secours pour nous aider à toujours chercher tout cela dans ton intimité. Père, aide-nous à fixer nos regards sur l'avenir glorieux qui nous attend. Aide-nous à prier sans cesse, sans nous décourager, avec l'aide du Saint-Esprit. Et quand nous avons du mal à prier, aide-nous à nous rappeler que le Saint-Esprit est avec nous et prend le relais. Aide-nous aussi à croire sans cesse que tu te sers de toutes circonstances pour que nous ressemblions à Jésus-Christ. Aide-nous enfin à être certains, à avoir cette certitude que rien ne pourra nous séparer de ton amour. te demande encore et encore ta force et ta consolation pour ceux qui souffrent en ce moment, qui reçoivent ta paix. Au nom de Jésus.